après une enfance qui a été heureuse. Et au cours de cette enfance heureuse, vraiment, je ne connaissais rien du tout de Dieu et de la foi, de la Bible, de l'Église, du Christ. Enfin, c'est au cours de l'adolescence que des questions ont commencé à me hanter. La question du sens de l'existence, à quoi ça sert de vivre si c'est pour mourir, l'action du sens de la mort et de la souffrance, qu'est-ce que je vais faire de cette vie, où est le bien, où est le mal. À toutes ces questions, j'ai cherché un peu partout des réponses, surtout avec ma tête, surtout dans les livres, et les réponses que je découvrais au bout d'un moment s'avéraient décevantes. Il y a aussi une expérience amoureuse qui m'a marqué, il y a eu l'amitié, il y a eu des rencontres. Je me suis aussi intéressé un peu à des spiritualités orientales, mais j'avais vraiment le sentiment d'aller de désillusion en désillusion, et sans ces réponses, sans ce sens, sans vérité, j'arrivais pas à commencer à exister, à être vraiment. Donc c'est vrai que pour moi, le désespoir, c'était l'expérience de ce vide intérieur dans lequel, au fur et à mesure, j'avais l'impression de tomber et rien ne pouvait combler ce vide intérieur. C'était un peu comme des sables mouvants et il m'était impossible de fonder ma vie. Je dis souvent que j'avais tout pour être heureux à ce moment-là et en même temps, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir commencer à vivre.
Comment avez-vous découvert cette foi? Qu'est-ce qui a été le déclic et qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Est-ce que ça a changé votre perception de la vie?
À partir de mon baptême, petit à petit, finalement, ce retournement va concerner toutes les dimensions de mon existence et je vais découvrir que je ne suis pas converti une fois pour toutes, mais qu'il y a tous les domaines de ma vie, que ce soit l'amour, le couple, la famille, le fait de devenir père, mais aussi mon métier, mais aussi le travail de l'intelligence, mais aussi le rapport au corps ou à la sexualité, le rapport à la mort, enfin, tous ces champs vont se trouver bouleversés, retournés. Et pour répondre à la première partie de votre question, oui, il y a eu des événements fondateurs. Et après cette longue quête, cette longue errance de plusieurs années, il y a eu d'abord eu des rencontres, notamment avec un moine, et puis ensuite avec une jeune femme qui deviendra mon épouse, Emmanuelle. Ces deux rencontres vont m'aider à casser les images fausses que je peux avoir de la religion, et de la foi chrétienne en particulier. Mais au-delà de ces rencontres, il a fallu une rencontre personnelle, intime avec le Christ. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vécu plusieurs expériences spirituelles qu'on peut appeler extraordinaires, mais j'ai sans doute eu besoin pour m'ouvrir à cette présence de Dieu. Et bon, au-delà de ces expériences extraordinaires, il me faudra plus tard apprendre à vivre ma foi dans l'ordinaire de ma vie.
Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point-là sur ces expériences extraordinaires, et notamment ce visage que vous voyez sur une statue?
C'était le dernier vendredi du mois de septembre 1994. Avec Emmanuel, nous sommes allés nous promener à Longpont-sur-Orge, qui se trouve en région parisienne, dans l'Essonne. Et nous sommes allés visiter la basilique Notre-Dame de Bonne-Garde. Et au moment d'entrer dans cette basilique, je me sentais vraiment pas bien, retourné justement, labouré de l'intérieur. Et au moment, mon regard a balayé la statue d'un évêque. Et l'espace d'un instant, j'ai vu sur la poitrine de cette statue de Saint-Denis un visage d'enfant dont les contours étaient dorés et qui semblait se retourner vers moi avec un air grave, comme s'il voulait me dire « viens ». Suis-moi. Mon regard est revenu sur la statue, le visage d'enfant avait disparu, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé, puis je me sentais toujours labouré intérieurement. Alors je suis vite allé rejoindre Emmanuel pour lui en parler, alors elle s'est exclamée, mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Et j'y croyais pas du tout ni à Dieu ni aux anges, donc j'ai eu beaucoup de mal à accueillir cette expérience. Mais pour moi, c'est le moment où dans ma vie, Dieu est venu se manifester pour me dire... Voilà, bien. Moi, c'était l'heure de Dieu, peut-être, dans mon existence. Je comprendrai quelques mois plus tard que cet enfant suivait une direction qui était celle du centre de la poitrine de cet évêque. Et je le recevrai comme une invitation à plonger sur le chemin du cœur, quoi, à plonger dans ma propre intériorité pour y découvrir la présence de Dieu. My son, oh how I long for your return. My son. My heart with love for you still burns.
Oh, come back to me. Vous l'évoquiez tout à l'heure, cette question du sens de la vie qui vous tourmentait. Alors, selon vous, est-elle essentielle pour trouver Dieu? Et vice-versa, est-ce que c'est Dieu qui donne réellement le sens à la vie?
Il est évident que bien des gens donnent un sens à leur existence par mille activités ou mille valeurs sans forcément parler de Dieu ou penser à Dieu. Ce que j'ai découvert dans la foi, et c'est ma conviction profonde, c'est que on ne donne pas seulement un sens à la vie, mais on peut découvrir que la vie a un sens profond, qui est l'amour, et que l'amour, en son sens ultime, est Dieu. Donc je répondrais plutôt comme ça. Il me semble que bien des gens, sans forcément nommer Dieu ou sans forcément se dire croyant, peuvent vivre d'un amour qui, sans qu'ils peut-être le sachent, les rapproche de Dieu, et s'ils laissent une place à un amour authentique sous quelque forme que ce soit dans leur existence, Dieu d'une certaine manière y aura leur place. Et il me semble que si on va jusqu'au bout de cette question du sens de l'existence, on peut reconnaître Dieu comme la source profonde de tout amour authentique sur cette terre.
Alors Sylvain Clément, vous êtes professeur de philosophie. En quoi votre conversion a-t-elle changé également votre façon de concevoir la philosophie ?
Alors j'avoue que mon rapport à la philosophie, j'en ai trouvé drôlement perturbé. En fait, j'ai compris après coup que j'avais cherché dans la philosophie des réponses aux questions dont je parlais tout à l'heure. Et la philosophie m'avait beaucoup déçu, m'avait beaucoup blessé, m'avait même encouragé à cultiver le doute et le soupçon qui m'enfermaient dans l'errance et le désespoir. Alors, c'est vrai que pendant des années et des années, au nom de la raison, au nom du doute, au nom de la philosophie, je me méfiais de la religion et je rejetais toute foi. Et puis, voilà que je vis cette conversion. Et alors là, je me retrouve complètement retourné et j'ai vraiment voulu, je l'ai fait d'ailleurs pendant presque 2 ans, j'ai voulu arrêter la philosophie qui m'avait déçu et blessé parce que c'était cette foi toute neuve qui m'avait rendu la joie de vivre et qui me faisait vivre, quoi. C'était le contraire, au nom de la foi, j'ai voulu me débarrasser en quelque sorte de la raison et de la philosophie. Et j'ai vraiment eu ensuite le sentiment que c'était Dieu qui me ramenait à la philosophie, qui me prenait par la main, notamment par des rencontres avec des personnes qui unifiaient en elles ce qui en moi ne l'était pas du tout, à savoir la foi, l'intelligence, la raison, et puis l'attention aux autres et l'amour vécu de manière authentique et concrète. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu aussi lire l'encyclique de Jean-Paul II, Foi et raison, qui m'a été d'un grand secours, pour petit à petit comprendre que la foi et la raison pouvaient faire alliance pour éclairer l'être humain sur différents domaines de sa vie et sur la question du sens de l'existence, et que toutes les deux, foi et raison, pouvaient vraiment être mises au service de l'amour et au service de la façon dont ensuite chaque homme peut conduire son existence. Voilà, c'est un chemin qui pour moi n'est pas que théorique, c'est vraiment un chemin d'unification intérieure qui pour moi était vital.